Bonjour, je suis Julie Guertin et je vous souhaite la bienvenue sur Découvre, Ose et Deviens, le podcast qui éveille votre curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? J'ai découvert Amandine via une vidéo qui parlait d'elle. Effectivement, Amandine a créé l'événement pour une raison admirable. Elle a obtenu en 2018 le titre de meilleure apprentie de France. Titre prestigieux, mais en plus et surtout, elle est devenue avec ce titre la première femme meilleure apprentie de France tonnelière de toute l'histoire du concours. Alors vous vous en doutez, en voyant tout ça, je me suis dit qu'il fallait absolument que je puisse l'interroger, car elle coche toutes les cases. Elle exerce un métier méconnu que je pensais aussi délaissé par les jeunes, un métier physique que je pensais complètement trusté par les hommes, et Amandine, du haut de ses 18 ans, tranquillement, elle casse tous les codes et le fait avec brio. Amandine nous ouvre les coulisses de son métier très noble et je dirais même très charnel, qui utilise les 5 sens pour transformer l'arbre en barrique. Barrique est une étape indispensable pour révéler toute la puissance aromatique du vin que nous dégusterons plusieurs années après. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir, alors un petit 5 étoiles plein les yeux, le partager aussi à votre entourage. Et puis n'oubliez pas aussi que vous pouvez nous inviter à découvrir un métier méconnu en laissant un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur le compte Instagram. Allez, c'est parti! Salut Amandine!
Bonjour!
Je te remercie de m'accorder du temps hein, pour nous permettre à tous de découvrir ton super métier de tonnelière. Alors j'ai lu en me renseignant un peu qu'on appelait ça aussi charpentier du tonneau et je trouve que ce terme est super beau et assez évocateur. Voilà, donc avant que tu me parles un peu plus en détail de ton métier, tu vois, j'ai un milliard de questions à te poser, hein, Amandine. Prépare-toi. Tu avais réfléchi à une anecdote sur ton métier, hein, une anecdote qui peut être drôle, insolite, émouvante, enfin voilà, et que tu voudrais nous raconter.
En fait, j'en avais, pour cette question, j'avais tellement d'idées que je ne savais pas trop quoi choisir. Mais je pense que je vais prendre une anecdote émouvante. C'est lorsque mon patron m'a remis, en fait il aime beaucoup tout ce qui est Japon, etc. Et m'a remis une sorte de kimono avec mon nom brodé et mon titre. Et il était de couleur marron parce que je n'ai pas encore une ceinture noire dans le métier. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas transmettre ce que je sais aux autres.
Ouais, j'imagine que vous avez une relation qui est super forte, mais on va en reparler justement de... puisque c'est lui qui t'a appris en fait le métier, donc et j'imagine que c'est sûrement avec lui que tu as vécu le concours, la préparation du concours, non?
Tout à fait.
Bon, on va en reparler après, ok. Merci hein, pour l'anecdote. Avant qu'on parle concrètement de ton métier aujourd'hui, moi j'aime bien savoir comment t'en es arrivé là, et donc que si tu peux nous raconter un peu ton parcours et qu'est-ce que tu rêvais de faire quand t'étais petite, par exemple, comme métier?
Alors, quand j'étais petite, j'ai eu 3 idées de métier. Je voulais faire l'armée. Je voulais être sergent instructeur dans l'armée de terre. Après, j'ai voulu faire coach sportif et nutritionniste. Et en parallèle, être barman le soir, monter mon bar. Et au final, j'ai pu faire aucun des 3. Parce que, en fait, j'étais en terminale. Du coup, il y a les parcours sup, etc. Donc, j'avais choisi TAPS pour pouvoir faire coach sportif. Et je n'ai pas été prise. Du coup, ça m'a démoralisée. J'étais prise en fac d'histoire des arts, mais ça ne m'intéresse pas. C'est parce qu'il fallait mettre une fac pour pouvoir mettre TAPS. Et du coup, j'ai dit à ma maman... les cours, ça ne m'intéressait pas. J'aurais dû partir en professionnel dans l'hôtellerie. Ça m'aurait intéressé, ça. Mais j'étais en général, ça ne m'intéresse pas plus que ça. J'ai demandé à maman si ça l'a dérangé, enfin, si j'avais pas mon bac, parce que j'avais vraiment pas envie de le travailler, enfin, si elle allait m'en vouloir, en fait. Et elle m'a dit qu'elle m'en voudrait pas, et je lui ai dit oui, mais, en fait, j'ai toujours été dans le privé. Et je lui ai dit oui, mais vous avez payé ma scolarité depuis que je suis toute jeune. Bon, au final, ne même pas avoir le bac, ça craint. Et elle m'a dit, mais tu sais, mon papa, moi, il m'a payé mon école d'infirmière, et regarde, aujourd'hui, je suis plus infirmière. Et j'ai fait, d'accord, du coup, ça m'a enlevé un poids. Et je ne me suis pas forcée à travailler, voilà, on va te le dire.
Non, mais c'est vachement important ce que tu nous racontes, parce que je trouve ça assez admirable, les parents qui arrivent à offrir cette liberté, tu vois, aux enfants, ouais. De leur dire, voilà, choisis ta voie. Après, ça ne veut pas dire... reste à rien faire à la maison, tu vois. En général, c'est accompagné de beaucoup de messages, voilà, boss, ne te laisse pas aller, quoi. Mais pour autant, choisis ta voie et c'est pas une fin en soi que de finir ses études, etc., quoi. Le tout, c'est de comprendre où tu veux aller, quoi.
À faire de longues études ou quoi que ce soit, ils nous ont toujours dit qu'on pouvait devenir qui on voulait et faire ce qu'on voulait. Enfin. De toute façon, comme ils disent, l'argent ne l'emmène pas au paradis, donc ça ne sert à rien de faire des études pour chercher seulement un salaire si au final, on ne s'y plaît pas, quoi.
Voilà. Je peux te demander ce qu'ils font, justement, comme métier, ton entourage, je ne sais pas si tu as des frères et sœurs, et voilà, et juste pour voir dans quel univers tu baignes, en fait.
Alors, mon papa est expert comptable, voilà. Lui, ses parents l'ont poussé à être expert comptable. Et ma maman, elle a été infirmière pendant 13 ans. Et maintenant, elle est catéchiste dans mon ancienne école, enfin à Talence, et elle fait le caté au primaire. Après, j'ai une grande sœur qui a 24 ans, qui est mariée, qui vit avec son mari à Libourne. Et elle est en études, elle est en formation pour être professeure des écoles. Et après, j'ai un petit frère qui est maintenant une petite sœur et qui est drag queen, voilà, qui est plus dans l'art, voilà.
Alors ça, mais c'est super comme invité, ça. Oh là 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 là, qu'est-ce que tu m'as pas dit, là. C'est clair que je repars avec, avec son nom, hein, avec ses coordonnées.
En plus, je pensais à elle, du coup, pour... Enfin, la dernière question, mais voilà.
Ouais. Et alors après, comment tu rebondis, en fait ?
Mais j'ai passé le bac, que j'ai pas eu, et je suis partie en vacances. C'est comme ça que j'ai rebondi. Et pendant les vacances, maman avait vu un article dans le journal qui disait qu'il n'y avait plus beaucoup de tonneliers en France, que c'était un métier en voie de perdition. Et elle m'en a parlé. Au début, j'étais un peu sceptique. Pour moi, j'allais partir essayer de trouver une formation pour être barman ou dans le sport. Donc j'étais pas à fond directement. Puis après, les vacances sont passées en revenant d'une semaine de vacances, j'ai dit à ma mère, j'ai réfléchi. Et en fait, je veux bien faire ça parce que j'ai fait du scoutisme pendant longtemps et j'ai toujours aimé le contact avec le bois. Et j'ai besoin de quelque chose qui bouge, parce que je ne peux pas être statique. Du coup, je savais que c'était un métier quand même physique où il faut bouger. Et du coup, j'ai dit, pourquoi pas essayer. Et après, je me suis lancée, voilà.
Et alors après, comment tu as dit, chouette, j'y vais, mais vraiment, tu as dit comme ça? Ou tu t'es dit, on y va prudemment, je vais d'abord aller rencontrer des gens pour voir un peu ce qu'ils font, pour en savoir un peu plus avant de t'engager ou pas?
Une semaine. Peut-être deux, je sais plus exactement, avant d'avoir le rendez-vous avec le directeur de l'école de tonnellerie, je me suis dit, il faut peut-être que je trouve une entreprise pour faire mon apprentissage. Donc j'ai fait les deux entreprises les plus proches de chez moi. Et la première entreprise, on me dit qu'ils avaient déjà un apprenti et ils étaient déjà un peu surpris de voir une fille quand même. Et après, je suis arrivée à la tonnellerie bordelaise où je travaille actuellement. Et donc, j'ai dit que je cherchais un maître d'apprentissage. Et mon patron m'a dit, te lance pas dans quelque chose que tu connais pas. Viens faire une semaine de stage. Et en fonction, si au bout de cette semaine de stage, tu vois que ça te plaît et que ça te donne envie, là, tu t'inscriras. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et moi, directement, j'ai accroché. J'ai beaucoup aimé. Mais c'était pas encore sûr qu'ils me prennent comme apprenti. Et le jeudi soir, il m'a dit, je te prends comme apprenti si t'es toujours partante. Et je me souviens que c'est ma grande sœur qui était venue me chercher. Et dans la voiture, j'avais les larmes aux yeux. J'étais en mode, ouh, il m'a pris comme apprenti et tout. J'étais soulagée d'avoir trouvé un patron. Et en même temps, je voyais que cette entreprise, elle allait me correspondre.
Et alors, une petite question justement. Alors, tu disais que forcément ta maman, elle a bien réagi puisque c'est elle qui t'a soufflé l'idée. Les autres personnes de ton entourage, ils ont réagi comment?
Ben, mes amis, ils connaissaient pas le métier. Donc, après moi non plus, mais ils m'ont dit, ben, fais ce que tu as envie, voilà. Et après, au niveau de ma famille, je sais j'avais un arrière-grand-père, quelque chose comme ça, du côté de mon père qui était tonnelier. Et en soi, ils ont tous bien réagi. Et dans la famille, ils sont plus en mode, ben, tant que vous faites quelque chose qui vous rend heureux, tant mieux. Voilà. Ils n'ont pas d'a priori sur les métiers manuels ou quoi que ce soit. Donc, non, ils ont tous bien réagi.
Et l'autre question que j'avais, c'était qu'effectivement, bon, c'est clairement pour moi un métier dans l'imaginaire très masculin, parce que très physique. Ton patron, a priori, ça n'a pas été une barrière, puisqu'il t'a tout de suite mis le pied à l'étrier et puis t'a dit bah, viens ma cocotte, viens tester. Et puis voilà. Est-ce que tu as eu l'occasion parfois de un frein ou plutôt des questionnements par rapport au fait que tu étais une fille? Bah, parmi tes collègues, par exemple, je sais pas.
Ben, je sais qu'il y a par exemple, hein, quand j'ai commencé la tonnellerie, j'avais un marteau de 2,5 kg. Et il se trouve qu'il était trop lourd pour moi et du coup, j'ai eu une tendinite. Donc après, j'ai eu un marteau, beaucoup plus léger, de 800 grammes. Et j'en ai un deuxième, en fait, j'en ai deux. Et un de 1,5 kg. Et du coup, ben, mon poignet va mieux. Mais après, c'est vrai qu'il y a des étapes où je vois que les garçons, ils mettent deux coups de marteau et c'est bon. Par exemple, pour mettre le fond de la barrique, moi je sais qu'il faut que je frappe et que je fasse le tour de la barrique au moins une ou deux fois pour vraiment fermer la barrique, alors que mes collègues, ils mettent trois coups de marteau et elle est fermée.
Mais est-ce que eux ont plus douté de ta capacité à réussir du fait que tu étais une fille ou pas du tout?
Quand j'ai fait ma semaine de stage, bah, ils étaient un peu, enfin ils m'ont tous demandé qu'est-ce que je faisais là et je leur ai dit que moi, j'aimerais devenir tonnelière et ils étaient tous un peu surpris parce que je suis un petit gabarit, enfin, je ne suis pas très grande, je fais moins d'1,60 m, je suis assez fine, donc ils se disaient, oula, mais comment elle va s'en sortir? Mais au final, j'ai su montrer que même si je suis petite et une fille, ben, j'arrive à faire ce qu'ils font.
Bah, c'est top.
Enfin, j'ai la chance d'être dans une entreprise où il n'y a pas de macho ni quoi que ce soit, donc c'est cool. Et au lieu de se dire, ah, il n'y arrive pas, ils vont plus venir m'aider en mode, ouais, tu veux que je t'aide? Et même parfois, c'est moi qui n'accepte pas l'aide parce que je veux y arriver toute seule.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes études, du coup, qu'est-ce qu'on y apprend, combien de temps ça dure et tout ça?
Alors, c'est un CAP, donc c'est en 2 ans, en alternance. Donc, on est environ une semaine par mois à l'école de tonnellerie. Et sinon, le reste du temps, on est en entreprise. On apprend surtout en production, etc. Parce que à l'école, on se prépare à passer l'épreuve du CAP, et c'est réparer une barrique et faire une barrique entièrement à la main en 14 heures. Et du coup, on apprend plus à travailler à la main à l'école. Et après, il y a toute une formation. On est allé voir une série, enfin comment ils préparaient le bois pour nous. On est allé voir l'abattage d'un arbre. On a des cours de PSE sur les positions, etc., pour pas se faire mal. Et après, moi, j'avais aussi les cours généraux, parce que comme j'avais pas de diplôme autre que le brevet, ben il fallait un bac ou un équivalent. Du coup, j'ai les cours généraux. Et après, ça, c'est basique. Mais en entreprise, on apprend plus à produire la barrique pour l'exporter et pour les châteaux, alors qu'en cours, c'est plus manuel, plus à la main.
D'accord. Alors moi, j'ai lu qu'en fait, bon, ces tonneaux, ils servent pour le vin, donc et que finalement, on dit souvent que les tonneliers sont les partenaires des vignerons. Est-ce que ça veut dire que vous avez aussi, je sais pas, des cours de, je dis n'importe quoi, d'œnologie,
Tout à
enfin.
fait, oui, pardon. C'est vrai, on avait des cours d'œnologie le vendredi matin.
Ah, pas mal.
À 11 h, ça allait quand même. Mais oui, on avait des dégustations, on a appris à à déguster à, ben, enfin, toutes les étapes de la dégustation et à reconnaître tel ou tel arôme.
Et autre question, est-ce que, je ne sais pas si vous utilisez différentes essences de bois, mais est-ce que c'est, ça fait partie des choses que vous apprenez aussi, c'est-à-dire quel type de bois utiliser, comment un bois pousse, enfin j'en sais rien, comment il se conserve?
Ben oui, on a appris toutes les techniques de séchage des bois pour après, enfin, qu'on utilise nous. Après, évidemment, on avait fait un tour en forêt aussi pour ben, reconnaître les arbres et en apprendre plus sur les sortes de chênes qu'on utilise en tonnellerie, etc. Mais après, en entreprise, en fait, les entreprises, elles n'utilisent pas forcément les mêmes bois. Nous, on n'utilise que du chêne français, essentiellement du chêne sessile. Et après, on utilise de l'acacia aussi. Et je suis désolée, mon cochon d'Inde, il n'arrête pas de boire.
Mais dans deux secondes, c'est mon chat qui va faire du bruit, t'inquiète pas. Il n'y a aucun souci, t'inquiète pas. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres cours ou d'autres, tu vois, d'autres types de formations que tu as pu suivre ou, est-ce que dans le cadre de l'apprentissage en ta tonnellerie, il se passait des choses un peu spécifiques ou pas?
Ben, on apprenait aussi, enfin en cours, mais je l'ai surtout appris à la tonnellerie, à lier. C'est les barriques bordelaises tradition, enfin vraies. Elles ont des cercles en châtaignier liés à l'osier.
C'est-à-dire, parce que pour moi, les tonneaux, en fait, tu relies les... Attends, j'ai pas les termes, hein, mais tu sais, les grandes lattes, là, tu les relies avec un cercle en métal.
Oui, c'est ça. Et...
D'accord.
Mais c'est plus un aspect décoratif. Je t'enverrai une photo si tu veux, tu verras. Mais c'est plus, oui, c'est un peu féminin, on va dire. C'est enjoliver la barrique. Voilà. Alors, à l'époque, ça servait vraiment, c'était pour éviter d'abîmer chaque latte de bois, justement. Ça s'appelle une douelle. Et c'était pour éviter de les abîmer parce qu'ils ne les roulaient pas debout, mais ils les roulaient au sol. Et du coup, les cercles permettaient d'abîmer le cercle et pas la barrique en elle-même, parce que ça coûte moins cher de changer un cercle que de réparer une barrique.
Voilà. Ah, intéressant, ça, je ne savais pas tout ça. Ok. Et est-ce que... on va en parler tout à l'heure, mais donc du coup, il y a du métal. Est-ce que ça veut dire que tu dois aussi apprendre quelque part un peu à être forgeron ou pas?
En fait, les cercles, on les reçoit faits avec des tailles différentes. Et après, c'est nous qui prenons la mesure et on vient mettre un rivet parce que chaque barrique n'a pas forcément le même gabarit, on va dire, enfin le même diamètre. Et du coup, après, c'est nous qui les faisons. Mais sinon, non, on ne fait pas trop de...
D'accord, donc vous travaillez quand même majoritairement le bois et pas la partie métallique du tonneau, quoi. Ok. Donc, tu as terminé tes études. À quel moment arrive la question du concours?
Au tout début. Au tout début, ça faisait 2 mois, à peu près, que j'étais à la tonnellerie. Et c'est Didier, parce qu'il est aussi formateur à l'école de tonnellerie. Il en a parlé à absolument tous les apprentis que ce concours existait et si vous voulez y participer ou pas. Bon, enfin, je me souviens que j'avais dit, moi je veux bien participer, et il m'avait dit, mais toi de toute façon t'as pas le choix, tu vas y participer. Et en vrai, il a raison parce que c'est, même si j'avais pas eu le titre, c'est hyper formateur, on apprend plein de choses.
Et pourquoi à toi il avait dit ça?
Parce que c'était mon maître d'apprentissage, donc il disait, toi, dans tous les cas, tu le feras, voilà.
Ouais, en gros, son poulain, il fallait absolument que tu fasses le concours, quoi. D'accord. Mais donc, de toute façon, tu avais l'air volontaire. Toi, pourquoi tu avais envie de le passer, ce concours?
Par curiosité. Parce que le sujet m'intéressait. Et en plus, je savais que j'allais apprendre de nouvelles techniques pour réaliser ça. Et que si demain, j'aimerais refaire cette pièce, je pourrais la refaire. Parce que j'ai le savoir maintenant.
Ouais, c'est un accélérateur de formation, quoi.
Ouais, c'est ça un peu.
Ok, comment ça se passe? Tu peux nous expliquer ce qui s'y passe? En combien de temps, par exemple, tu l'as préparé ce concours?
Alors, c'est pas des concours en loge comme les Olympiades des métiers ou le concours des meilleurs apprentis de France au niveau cuisine, etc. Ça, c'est en loge généralement. Nous, on a un sujet qui tombe en octobre. Et on a jusqu'à avril pour le réaliser. Donc, on a le droit de le faire chez soi, à l'école ou en entreprise. Et donc, il y a des cotes avec plus ou moins 1 mm de marge. Il y a des critères. Et du coup, moi, je l'ai commencé 2 semaines avant de le rendre. Un peu au dernier moment. Voilà.
C'est ça, on peut se le dire, on peut se le dire, on est d'accord.
Et c'est pas moi qui ai choisi, parce qu'en fait j'avais des amis en formation qui eux avaient commencé depuis décembre, et moi je voyais les semaines passer, les mois passer, et je disais à mon patron, enfin à Didier, oui, mais là ça arrive vite quand même, enfin, il faudrait que j'aie le temps de le faire.
Bon, ce que je comprends, c'est que quand tu dis que c'est pas en loge, ça veut dire que tu ne le fais pas en live devant un public et devant un jury, c'est ça, hein? Là, tu le fais effectivement dans ton entreprise. D'accord. Et alors le jour en fait du verdict, comment ça s'est passé? Est-ce que vous étiez quand même là cette fois-ci réunis pour pouvoir être devant le jury ou
Nous,
pas?
je sens que le jury délibérait dans le château et nous on était en cours et tous ceux qui participaient au concours, on était tous en mode on voulait trop savoir en fait. Et une fois qu'ils ont fini de délibérer, ils nous ont dit, enfin ils nous ont tous appelés et bon évidemment après ça a été officialisé par la remise des médailles, etc. Mais ils nous ont dit les premiers résultats. Donc en fait, au département, il y a médaille or, argent et bronze. Quand on a or, on va au régional. Après au régional, il n'y a plus que or et argent. Et si on a or, on va au national. Moi, j'ai eu la chance d'avoir 2 médailles d'or. Du coup, je suis partie au national.
Et alors, attends, ça veut dire quoi partir au national?
C'est-à-dire que ma pièce sera jugée par un autre jury et avec des critères plus stricts.
Déjà, ta première réaction quand tu as eu la médaille d'or, tu devais être hyper contente quand même, non?
C'est vrai. Non, en vrai, j'étais super contente. J'étais surprise et je me disais surtout, waouh, mes parents vont être fiers de moi. Et c'est surtout, en fait, c'était plus le regard de mes parents et de mon patron qui était important que la simple médaille. En soi, moi, le titre, quand on me demande mon métier, enfin, ce que je fais dans la vie, je dis que je suis tonnelière, mais jamais je vais dire, oui, et je suis meilleure apprentie de France. Parce qu'en fait, pour moi, c'est pas que c'est pas important, loin de là, mais c'est plus important de le voir dans le regard de mon patron et de mes parents que de me vanter en mode oui, je suis la première femme meilleure apprentie de France. J'aime pas trop
J'ai bien fait de le dire en intro, alors.
le
En fait, tu l'aurais pas dit toute seule, quoi.
dire.
Donc, j'ai bien fait de le dire. Les autres candidats, là, qui étaient de la région, je ne sais pas s'ils savaient que tu t'y étais mis un mois ou 2 semaines avant, ils t'ont pas juste détesté, ceux qui avaient commencé en décembre?
Non, du tout, parce que enfin, ils auraient pu commencer avant ou après, ça aurait rien changé dans le sens où, quand on fait un concours aussi, si on n'est pas bien soutenu et pas bien formé, ben, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Et moi, j'ai la chance d'avoir un patron aussi qui est meilleur ouvrier de France, qui sait ce qu'il fait et qui va. Enfin, il m'a toujours dit ça, mais il nous pousse vers l'excellence. Donc on va dire que les personnes qui ont commencé en décembre et qui n'ont pas eu le titre de meilleur apprenti de France auraient pu avoir le titre s'ils avaient eu aussi le maître d'apprentissage qu'il fallait. Parce qu'un apprenti, c'est pas juste un apprenti, c'est vraiment un lien entre le maître d'apprentissage et son apprenti.
Ok, alors est-ce que tu peux. Alors déjà, quel est ton poste là aujourd'hui là? Donc tu as fini ton apprentissage. Est-ce que tu es salarié de la tonnellerie désormais?
Oui, je suis ouvrière.
D'accord. Ah bah alors justement, bonne question. Est-ce que tu peux nous décrire tous les postes qu'il y a dans une tonnellerie?
Donc, la première étape, c'est on vient usiner le bois. Donc, on va le transformer en douelle. Chaque latte de bois s'appelle une douelle. Voilà. Donc, il y a des différentes tailles selon le litrage des barriques. Donc, ça va de 225 litres à 500 litres. Après, on va monter la barrique, ça s'appelle la mise en rose. Donc, dans un premier temps, on va l'établir. Et après, on va la monter. Nous, dans mon entreprise, on le fait à la main. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui le font avec des machines. Donc, on la monte. Après, on arrive au cintrage. Donc, c'est là où on va venir fermer la barrique. Et donc, on va venir la cintrer. Donc, on fait un feu au milieu. On met un câble en bas de la barrique. Et on va arroser régulièrement l'intérieur et l'extérieur de la barrique pour détendre la fibre du bois. Et on va la serrer progressivement. On l'arrose surtout pour pas qu'il y ait de casse, pour réduire au maximum les casses. Après, elle va passer sur un autre feu où on va venir cuire la barrique à l'intérieur. Ça s'appelle la contre-chauffe. Donc, il y a des chauffes plus ou moins fortes. Ça dépend en fait des souhaits des maîtres de chez. Parce qu'il y en a qui vont préférer des chauffes fortes pour certains rouges, etc. Et des chauffes plus douces pour les vins blancs. Après, il y a l'étape du rognage. Donc, c'est là où on va faire, on va dire, l'encoche pour mettre le fond. Voilà. Après, on va percer le trou de bonde, hein, le trou de la barrique.
Attends, le trou de bonde, c'est quoi? C'est le trou où tu peux ouvrir et puis verser un peu, enfin...
Là où il y a le bouchon, la bonde. Après, on va venir prendre le point de la barrique pour définir la taille du fond, parce que toutes les barriques n'ont pas forcément la même taille. Du coup, on va venir mettre le fond dans la tailleuse de fond. Elle va le couper. Et après, on va venir la foncer. Donc, on met de la pâte dans l'encoche, qui s'appelle le jab. On met de la pâte naturelle. Enfin, c'est de l'eau et de la farine. Voilà.
D'accord.
Pour permettre l'étanchéité. Après, on va mettre de l'eau justement dans la barrique et on va mettre de l'air à l'intérieur pour tester l'étanchéité. Parce que parfois, c'est quand même une matière vivante, le bois. Donc, elle peut avoir des nœuds ou des défauts autres, comme elle peut être poreuse, fuir comme ça sans aucune raison. Du coup, on va vérifier qu'elle est bien étanche. Et après, on va enlever les cercles de bâtissure. Donc, depuis le début, depuis les premières étapes, là, on a mis des cercles. On les appelle cercles de bâtissure parce qu'ils servent à bâtir la barrique. Et c'est des gros cercles noirs bien épais, assez lourds. On les enlève et on vient mettre les cercles finaux. Donc, c'est des cercles galvanisés. Enfin, ils sont en galva. Voilà. Et...
Ce dont tu parlais, où tu mets toi le rivet, quoi, c'est ça?
Oui, exactement. Voilà. Et après, la barrique est... Enfin, elle est aussi poncée, etc. Et après, elle est prête à être envoyée. On va la graver après, l'emballer. Et voilà.
Et la graver du nom de la tonnellerie?
Oui. Donc, on met le nom de la tonnellerie. La plupart du temps, il y a la chauffe de la barrique, l'origine du bois, c'est du centre France ou voilà. Et ça dépend des châteaux, il y en a qui veulent, d'autres qui ne le souhaitent pas, mais on met parfois le logo du château.
Et pas ton nom à toi en tant que tonnelière?
Non, il y a une barrique dans tout le monde entier, deux barriques du coup, qui a mon nom et mon prénom, ainsi que le prénom et le nom de ma collègue, avec la date, pour moi, 2018 et elle, 2019, et meilleure apprentie de France. C'est, je ne sais pas si tu connais, Opus One. C'est un des leaders du vin en Amérique, en Californie, qui a souhaité que deux barriques, en fait, pour ce château-là, on grave la partie de la barrique qui ne sera pas vue par le grand public, entre guillemets. Et il a souhaité que sur ces deux barriques, ça soit gravé où tout le monde puisse le voir, avec notre nom, notre prénom et notre titre et l'année. Voilà.
Ça doit être sacrément sympathique de le faire, quoi.
Oui.
Combien de temps tu mets pour faire un tonneau au total, du début jusqu'à la fin? Jusqu'à ce que tu le livres au château, quoi.
En fait, c'est du travail à la chaîne, en quelque sorte. À chaque poste, nous, on est une petite boîte. Du coup, à chaque poste, il faut faire 30 barriques par jour. Mais après, si vraiment la barrique allait directement du début jusqu'à la fin, sans stagner à un poste parce que, enfin, on fait 30, du coup, c'est vraiment genre, par exemple, aujourd'hui, j'ai monté 30 barriques qui seront centrées demain. Et la personne, enfin voilà. Mais sinon, ça prend, je dirais, 4 heures.
Ah non, sérieux, que 4 heures? Honnêtement, je pensais que tu allais me dire, tu allais me parler en semaine.
Ben, non, non, le montage, ça prend 15 minutes, le cintrage 40. Donc là, on va dire qu'on est déjà à 1 heure. Après, ça dépend de la chauffe de la barrique, et on va rajouter 1 heure. Et après, les autres étapes, elles vont vite.
Ok, ok. Et alors, tu parlais de la chauffe, là, c'est super intéressant. Vous livrez pour tout type de région et tout type de vin?
Oui, on exporte dans tout le monde entier, mais on fait les rouges et on fait les blancs et on fait quelques spiritueux aussi.
Et alors, tu disais aussi autre chose, c'était le château, c'est-à-dire que, est-ce que vous avez genre des partenariats avec des maisons de vin, enfin des châteaux? Et où ils vous commandent, ils bossent avec vous l'essence du bois utilisé, le type de chauffe, parce que j'imagine que chaque château veut aller chercher un goût particulier et ça passe aussi par le tonneau. Donc est-ce qu'il y en a certains qui vous demandent une recette un peu particulière, tu vois, exclusive pour eux?
Oui, deux châteaux espagnols qui nous demandent essentiellement de l'extra fin. Donc, en fait, le grain du bois peut varier selon s'il a grandi lentement ou vite. Et plus il grandit lentement, plus le grain est fin. Et du coup, il nous demande des barriques seulement en extra fin. Et chaque année, à la période de Noël, ils viennent gratter à l'intérieur de la barrique sur une douelle pour faire des analyses par rapport à notre chauffe, par rapport au bois, etc.
Et alors, un tonneau, ça a une durée de vie de combien de temps? Est-ce que les châteaux doivent les renouveler quoi, tous les ans ou c'est plus long?
Généralement, ils les gardent environ 2 ans. Et après, ils les revendent pour des spiritueux. Parce qu'énormément de spiritueux sont élevés dans des barriques qui ont vu du vin. Voilà.
Pourquoi?
Parce que ça apporte un petit goût en plus à leur cognac, etc.
Alors, une autre question, en fait, mais ça, c'est plus global sur le secteur d'activité, en fait. Aujourd'hui, dans le secteur du vin, c'est encore majoritairement les tonneaux qui sont utilisés ou finalement, c'est un marché qui est un peu en déclin parce que de plus en plus, ils utilisent des cuves ou d'autres systèmes, tu vois?
Ben, la plupart du temps, les vins qui sont mis en barrique ont été au préalable mis dans les cuves parce qu'il faut que la vinification se fasse. Et c'est très rare, on a quelques clients, mais c'est très rare que les châteaux fassent des vinifications directement dans les barriques.
Ouais, je comprends. Mais à l'inverse, est-ce que tous les vins finissent forcément par passer à un moment donné dans une barrique ou pas?
Non, pas du tout. Il y a même des alternatives qui ont été créées. C'est des gros sacs remplis de copeaux de chauffe, enfin avec des chauffes plus ou moins fortes. Et certains mettent directement les copeaux dans les cuves pour apporter ce côté tannique que peut apporter la barrique au vin sans pour autant le mettre dans une barrique. Mais ça apportera okay. Forcément moins de tanin parce que le contact bois-vin sera pas le même.
Ouais, ouais. Donc le système du tonneau reste encore d'actualité.
Surtout qu'à l'époque, au tout début, c'était utilisé vraiment pour transporter le vin de pays en pays. Mais maintenant, il a une autre fonction. Il apporte un goût au vin.
Alors, j'ai lu qu'il y avait encore 400 tonneliers qui travaillent aujourd'hui en France. Alors, le chiffre n'est peut-être pas exact ou très récent. Et qui travaillent dans 50 tonnelleries en France. Et que les tonnelleries, elles sont majoritairement à Bordeaux et dans la région bordelaise, pardon, et en Bourgogne. Mmh. C'est bien le cas ou pas?
Oui. Après, je sais qu'il y a une ou deux tonnelleries dans le nord.
Ok, tu peux nous décrire les outils nécessaires? Tu as commencé à nous parler du marteau de 2,5 kg, là, que tu n'arrivais pas à soulever. Quel autre type d'outils vous utilisez?
On a une chasse qui sert à chasser les cercles. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. En fait, on va taper sur la chasse avec le marteau pour enfoncer le cercle. Et c'est les deux outils qu'on utilise vraiment tous les jours. Mais après, par exemple, quand il y a une réparation à faire à la main, on va utiliser un jabloir, une hasse, un rabot. On utilise des racloirs aussi.
Ok. Bah, à la limite, oui, toutes les photos seront les bienvenues, même si tu as une vidéo avec les étapes ou je sais quoi. Tout ce que tu pourras trouver, ça nous aidera aussi beaucoup à mieux comprendre comment ça se passe, quoi. Quand tu as terminé un tonneau, il fait... Alors, tu disais qu'il y avait plein de tailles différentes. Donc, mais là, en moyenne, il fait quelle taille et quel poids vide?
Alors, il fait pour les transports, donc les 225 litres, il fait 95 cm. Alors que la 500 litres fait 1 mètre, je sais pas combien. Il m'arrive sous les côtes, à peu près. Peut-être un peu plus haut, quand même. Et le poids, donc pour... en fait, les 225 litres, ça pèse 46 kilos. Après, la 500 litres, elle est à plus de 100 kilos.
Ok, ok. Tout à l'heure, tu sais, on parlait de bois, de type de bois. Qui s'approvisionne en bois? Qui achète le bois? Est-ce que c'est la tonnellerie? Est-ce qu'il y a des grossistes? Comment ça se passe, cette filière?
Alors, il y a plusieurs façons d'acheter du bois. Soit on l'achète sur pied. Donc, par exemple, mon patron va partir en forêt. Donc c'est le ONF, l'organisation des forêts, voilà, qui va dire, bon, ben, on va abattre ces arbres, qui veut quoi, et c'est un peu aux enchères. Voilà. Donc, soit ils vont l'acheter comme ça, en mode ben, direct sur pied, ils vont dire, ben, lui, ça sera mon arbre, et ça part aux enchères. Soit les scieries et tout, ceux qui préparent, qui transforment l'arbre en douelle, va dire, bon, ben, moi, j'ai ça comme bois, qui est intéressé.
Mais en tout cas, c'est la responsabilité de ton patron, oui, que de ne pas se planter sur le choix des arbres. Oui. C'est-à-dire que la qualité de la barrique, c'est de sa responsabilité à lui, quoi. Parce que je te pose la question parce que je me demandais à quel point le château, qui était le client final, était partie prenante dans le choix aussi. Tu vois, est-ce qu'ils ont...
C'est aussi à mon patron de choisir, par exemple, s'il va dire j'ai besoin de 15 colis de troncés et de 3 de Châteauroux, c'est aussi à mon patron de savoir ce que ses clients voudraient comme bois, parce qu'en fait, ils choisissent pas que la chaffe, ils choisissent aussi la provenance du bois, parce qu'en fait, c'est comme sur tout, même sur les arbres, il y a un effet terroir. Donc, si de certaines forêts ou certaines forêts, ça va pas forcément apporter les mêmes arômes. Et du coup, c'est à lui de dire, ok, je sais que cette année, on va me demander tant de troncées, tant de châteaux, etc. Mais le client, au final, lorsqu'il nous commande des barriques, il nous dit, je veux ça comme bois. Et voilà, enfin, on doit vraiment, enfin, il a vraiment ce poids en mode, s'il veut du troncé, on ne peut pas lui donner du château roux. Ou s'il veut du grésigne, on ne peut pas... Voilà, et c'est compliqué dans le sens où il faut qu'il puisse savoir, enfin, qu'il connaisse bien ses clients pour se dire, ok, on va plus me demander ça que ça.
Ouais, pour pouvoir anticiper et acheter en avance le bois, quoi. Est-ce que le bois, il doit être conservé, tu vois, un peu genre maturé avant d'être utilisé oui, sur les tonneaux?
Oui. Il a une maturation de 24 mois.
Purée, donc ça, attends, ça veut dire qu'il doit anticiper de 2 ans les besoins de ses clients, en fait.
À peu près, oui.
Ouais, c'est énorme. Et alors, cette conservation ou cette maturation, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Qu'est-ce qui s'y passe? Et c'est le tonnelier qui le fait, qui s'occupe de ça?
Non, c'est les scieries. Donc, en fait, ils vont faire une palette d'un mètre cube qu'ils vont laisser à l'air libre et ils vont l'arroser. Et vont laisser comme ça le bois sécher et en même temps pas sécher parce qu'il l'arrose.
Ok. Et pourquoi il l'arrose? C'est pourquoi l'attendrir? C'est quoi le pour pas qu'il se craquelle ou j'en sais rien?
C'est pour parce que c'est très tannique quand même et ça va permettre de faire sortir certains tanins qu'on voudra pas forcément.
Je suis en train de me dire, ça existe des j'ai un truc complètement débile, je pense, mais des goûteurs de bois. Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a des gens qui sont super spécialisés sur l'odeur ou le goût d'un bois pour connaître les notes qu'il donnera après dans le tonneau?
Ben, je sais que les maîtres de chais, Par exemple, parfois, ben, je sais que mon patron, lui, quand il va faire une barrique, il va sentir, il va dire, ok, ça apportera ça au vin. Et chaque année, on fait une démonstration de tonnellerie dans un château, un patron à l'entreprise. Et une année, on avait dit à ce château, oui, eh ben, on va monter une barrique là, 100% Vosges, donc du bois qui vient de là-bas. Et il a dit, je pense que avec votre vin, ça pourra vraiment donner un truc bien. Du coup, on l'a fait sur place, on l'a contrechauffé, etc. On a dit, bon, on la finira à l'entreprise parce qu'on avait toutes les machines pour. Mais il a dit, prends cette barrique, tu testes et tu me diras. Et depuis, ben, il nous achète des barriques en Vosges parce qu'il se trouve que ça a vraiment apporté un truc en plus. Et je pense pas qu'il y ait enfin, il n'y a pas de métier spécifique pour dire, ok, ce bois, bam, il vient d'ici, ce bois, c'est du chêne Cécile, celui-là, du chêne pédonculé. Non, je pense que c'est plus, c'est les maîtres de chez qui testent, qui vont demander du Châteauroux, ils vont voir si ça passe pas trop. L'année d'après, ils vont demander autre chose. Et parfois, c'est mon patron de lui-même qui va dire, je te conseille ça, parce que je sais qu'avec ton vin, ça ira bien.
En fait, c'est vraiment des métiers qui sont quand même vachement imbriqués quand même. Alors, tu vois, ça me fait penser à quelque chose, que ce soit dans le choix du bois ou si les techniques pour fabriquer un tonneau. J'ai lu qu'en fait, il y avait quand même des petits secrets de maison, c'est-à-dire des petites façons de faire qu'on ne partage pas, qu'on garde au sein d'une maison, parce que c'est un historique qu'on se transmet un peu de génération en génération, mais surtout qu'on n'officialise pas pour garder sa différence. Est-ce que tu le confirmes, ça ?
Oui, je le confirme. On signe une clause de confidentialité. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire.
Génial. Même sous la torture, quoi.
C'est ça.
Exactement. Les secrets, ils sont à toutes les étapes ? Ou est-ce qu'il y a une étape ou deux qui sont particulières ?
Après, on peut avoir des secrets qui nous sont propres aussi au sein de l'entreprise. Par exemple, des techniques pour pour faire une étape d'une autre manière. En fait, mon patron dit il y a trois méthodes. Il y a la bonne, la mauvaise et la tienne. Et il a raison, faut prendre un peu, faut pas être fermé et apprendre qu'une seule méthode. Faut prendre un peu de tout ce qu'on nous dit et au final se créer sa méthode.
Ok. Est-ce que vous travaillez toute l'année ? Est-ce qu'il y a une saisonnalité ? Tu vois, un moment où il y a un pic d'activité ?
Oui, il est en ce moment.
Tu dis pas ça pour me mettre la pression parce que je t'empêche de bosser, c'est ça ?
Non, du tout. Non, il est en ce moment parce que là, c'est la fin de l'année. Donc, il faut que toutes les barriques soient envoyées avant les vacances de Noël.
Attends, et pourquoi, Amandine, cette saisonnalité, en fait ? Pourquoi ce stress avant Noël ? C'est quoi le rapport avec le vin ?
Ben, parce que les vendanges, elles sont en septembre. Et qu'après, il faut qu'ils puissent mettre leur vin dans les barriques.
Ah oui, après le passage dans les cuves, veux dire. Du coup, il faut que les barriques, elles soient prêtes.
Oui, et du coup, en plus, cette année, sauf que les vendanges ont été faites un peu plus tôt que prévu. Du coup, on a dû accélérer. Et en plus, avec les conditions actuelles, le corona, etc., c'était un peu le rush.
Ouais, je veux bien croire. Est-ce qu'il y a une évolution dans le métier ? Est-ce que vous travaillez comme les gens d'il y a 30 ans, 50, 100 ans ?
Non, il y a une évolution. Déjà, il y a plus de machines. Et encore, nous, il n'y a pas énormément de machines. On est vraiment une tonnellerie artisanale. Mais il y a beaucoup plus de machines qu'auparavant. Par exemple, ben, la tailleuse de fond, ben, elle va tailler le fond en 2 minutes, il est taillé. Alors qu'avant, il fallait le chantourner, enfin, avec une scie et après le tailler à la plane.
Je peux te demander comment tu te projettes dans, je sais pas, 2 ans, 5 ans, 10 ans ?
Alors, dans 2 ans, je me projette encore à la tonnellerie. Dans 10 ans, mon patron est au courant, mais mon rêve après serait de monter mon bar. Donc voilà, je mets de côté tous les mois pour pouvoir monter mon bar plus tard. Et en plus, mon patron adorable m'a dit si t'as besoin d'investisseurs et tout, moi je serais ravie d'investir dans ton bar. Il ne nous pousse pas à nous garder rien pour lui.
Et donc, ça veut dire que tu reviendrais à ton premier rêve, quoi.
Oui, voilà, exactement.
Ok, donc c'est pas forcément de créer ta propre tonnellerie ou truc comme ça, c'est...
Après, je sais pas ce que l'avenir me réserve. Donc, peut-être qu'au final, je me retrouverai à reprendre la tonnellerie bordelaise ou à créer ma propre tonnellerie. Mais pour le moment, j'aimerais bien faire ça.
Ok. Pour toi, c'est quoi les qualités d'un bon tonnelier ?
La patience. Parce que c'est le bois qui décide et pas nous. Et dans le sens où quand j'établis une barrique, parfois il y a des lots de bois qui sont super avec aucun défaut et là ça va vite. Et parfois c'est tout au contraire, il y a énormément de défauts et du coup faut retrier le bois, etc. Donc la patience, parce que enfin même pour la contre-chauffe, etc. Faut attendre, faut pas être pressé. Enfin faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est quand même une matière vivante, entre guillemets, même si elle est morte depuis plus de 2 ans. Mais c'est, on n'a pas le pouvoir sur elle. Si elle décide de fuir, ben elle fuit. On va faire en sorte qu'elle ne fuit plus, mais c'est elle qui décide, quoi. Donc, je dirais la patience. Après, il faut être motivé aussi. Il faut avoir envie de bouger.
Par rapport au fait que c'est un métier physique, tu veux dire ?
Il ne faut pas avoir peur de se salir, de toucher, de sentir, de voir comment on joue beaucoup avec les 500.
S'il y a des gens qui veulent faire ce métier-là, et tu leur donnerais quoi comme conseil ?
Foncez. Allez-y. Vraiment, faut essayer pour voir et pour comprendre. Parce que quand on voit une barrique, on ne se doute même pas de tout le travail qu'il y en a. On n'a même pas idée. Moi, quand j'ai commencé la tonnellerie, je ne savais même pas qu'on utilisait du feu. J'en avais aucune idée. Je pensais que les morceaux de bois, on les collait ensemble, alors que c'est juste grâce au feu, les fibres du bois vont se lier, et ça s'appelle le mariage d'ailleurs. Elles vont se lier entre elles et c'est ça qui va permettre l'étanchéité. Enfin, c'est un métier hyper...
Moi, je trouve que c'est un métier qui est très noble.
Ouais, souvent on dit ça, mais c'est surtout genre, improbable. Comment du bois peut retenir un liquide à l'intérieur ? Quand on y pense, c'est quand même fou qu'un arbre puisse contenir du liquide.
T'as raison, et puis ce que je trouve aussi vachement beau, c'est... que l'arbre, le bois, puisse se marier avec le raisin, enfin le jus, et en faire et donner du goût, quoi. Et ça, ça donne des vins exceptionnels, et vous participez à ça, quoi. Donc, je pense que je peux comprendre qu'on puisse être fier de participer à la chaîne, quoi.
Et surtout, je suis d'autant plus fière de faire ce métier parce que c'est un métier qui existe depuis des siècles. Et il est encore là aujourd'hui, il sera encore là demain. C'est, tant qu'il y aura des arbres, il y aura des barriques. Et tout est fait pour qu'il y ait encore beaucoup d'arbres. Donc, ils replantent bien les arbres et tout pour que dans 100 ans, on puisse encore faire des barriques. Mais je sais pas, en fait, c'est tout le savoir-faire qui est passionnant, on va dire.
Ouais, ouais, et qui se transmet en plus de génération en génération, parce que t'as le patron qui le transmet aux apprentis, les apprentis deviennent salariés et eux-mêmes formeront à leur tour, quoi. Est-ce que toi, tu formes des apprentis qui rentrent dans la tonnellerie ?
Ben, quand j'étais encore apprentie, il y a Maëlys, ma collègue, qui est arrivée en tant qu'apprentie. Du coup, mon patron m'a dit, c'est pas parce que t'es ceinture jaune que tu peux pas transmettre. Du coup, ben, je lui ai donné mes petites techniques, ce que je savais, je lui ai transmis.
Ouais, mais c'est vachement agréable de transmettre, parce que c'est là que tu te rends compte de tout ce que tu as appris, en fait. Parce que parfois, tu t'en rends plus compte, parce que tu es au quotidien, tu vois, et donc c'est très valorisant.
Ouais, moi, j'aime bien transmettre ce que je sais, donc ça fait plaisir.
Avant qu'on se quitte, Amandine, tu sais, je t'avais posé une dernière question, c'était que tu me lances le défi de rencontrer ou de partir à la découverte d'autres métiers.
J'en ai deux et qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Ben, le monde des drag queens, voilà, je pense que c'est pas un univers qu'on connaît assez et qui pourtant est super intéressant parce que vraiment, c'est vraiment un art en fait. Et après, ça n'a rien à voir, mais réserviste, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez des réservistes. Enfin, par exemple, moi j'aimerais bientôt aussi devenir réserviste, c'est avec l'armée, les gendarmes, etc.
Bon, effectivement, c'est deux univers complètement différents du métier que tu fais, mais drag queen, top, c'est un univers fascinant, donc ça me va super bien. Merci pour le défi.
Hein. Avec plaisir.
Merci pour tout, Amandine. C'était super intéressant. J'ai hâte de voir les vidéos et les photos.
Bah, avec grand plaisir.
Bon, tu feras un petit coucou à ton cochon d'Inde.
Elle n'a pas arrêté de boire. Elle n'a jamais autant bu.
Je pense qu'elle l'a fait exprès. En fait.
Mais c'est sûr, c'est obligé.
Ils sont sadiques. Ouais. C'est comme je te dis, c'est comme mon chat. Il attend toujours que je sois en interview pour arriver derrière et miauler comme un malade. Puis je te souhaite un super bon week-end.
Bah, avec grand plaisir. Et bon week-end à toi aussi.
J'espère sincèrement que cet épisode vous aura autant passionné que moi et vous aura permis de mieux connaître ce métier magique de tonnelière qu'exerce Amandine. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur le site tonnellerie-bordelaise.com qui est le site de la tonnellerie dans laquelle Amandine travaille. Si vous voulez vous assurer de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas le petit bonus 5 étoiles qui nous fait toujours plaisir. Pour me lancer le défi de dénicher un métier qui vous inspire, c'est simple, il suffit de me laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine !